RFI, 14h à Paris, midi en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour RFI Midi, une demi-heure d'information consacrée à l'actualité internationale. L'armée israélienne déploie des troupes supplémentaires dans les environs de la bande de Gaza à la veille de la première commémoration des attaques du 7 octobre. Parallèlement, les bombardements se poursuivent à Gaza et au Liban. En Australie, ces manifestations de soutien au peuple palestinien et libanais à Sydney, ils étaient plus de 10 000 aujourd'hui pour exiger un cessez-le-feu, malgré l'opposition des autorités qui jugeait la mobilisation inappropriée. Une dizaine de jours après le passage de l'ouragan Helene aux États-Unis, l'état d'urgence de nouveau déclenché en Floride à l'approche d'une nouvelle tempête. Les bombardements israéliens se poursuivent au nord comme au sud d'Israël. Des frappes au Liban où les autorités ont fait état de 23 morts hier. Des frappes à Gaza également. Au moins 26 personnes sont mortes dans une école et une mosquée qui accueillaient des déplacés dans le centre de l'enclave palestinienne. L'armée israélienne, elle, dit aujourd'hui encercler Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. Elle estime que le Hamas y a reconstruit ses capacités malgré des mois de combats et de frappes aériennes. L'armée israélienne qui a aussi déployé des troupes supplémentaires dans les environs de la bande de Gaza à la veille de la première commémoration des attaques du 7 octobre. Il y a un an, près de 1200 Israéliens ont été tués par les commandos du Hamas. Un échec cuisant pour les services de renseignement. Pourtant, avant le 7 octobre, des soldats avaient averti leur hiérarchie de ce qui se préparait à la frontière. Sami Boukhalifa s'est entretenu avec l'une d'entre elles.
Et j'étais debout devant la porte pendant 9 heures, avec mon arme chargée, à attendre la mort.
Son nom d'emprunt, Noah. Son grade, sergent. Nationalité française et israélienne. Le 7 octobre, sa base située à une quinzaine de kilomètres de Gaza est attaquée par le Hamas.
Et on entend des tirs.
Avec d'autres soldats, elle s'enferme dans un bunker.
J'entendais juste mes amis qui étaient en train de pleurer, qui s'évanouissaient, des crises de panique.
À l'extérieur, le combat est engagé.
J'entendais des cris, j'entendais des explosions, j'entendais de tout.
Avant d'être dans cette base arrière, Noah a passé l'essentiel de son service militaire en première ligne, à la frontière avec Gaza.
On voyait à peu près une fois par semaine le Hamas qui passe en grosse voiture, en camionnette, qui regarde avec des jumelles.
Noah est-elle aussi chargée de surveiller le camp adverse? Dans le jargon, on l'appelle une tatspitanite, littéralement une guetteuse ou une observatrice.
On les voit vraiment comme un entraînement de l'armée. Ils ont comme des maquettes, mais des grosses maquettes de notre barrière, de notre frontière. Ils déguisent des personnes en soldats, comment l'enlever de la bonne manière pour qu'ils puissent pas réagir. Ils ont fait des grosses maquettes de tanks, tout.
Et tout a été signalé à la hiérarchie. Talia, franco-israélienne, était elle aussi soldate. Son témoignage a été recueilli plus tôt cette année.
Les hauts gradés, pour le coup, auraient dû comprendre, avec les alertes, à quel point c'était grave, en fait, et faire les choses nécessaires. Et c'est pas normal que ça n'ait pas été pris en compte, qu'il y ait de telles failles qui donnaient lieu à un massacre pareil, quoi, une catastrophe pareille.
Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Le 7 octobre 2023 marque également le début de la guerre à Gaza et le carnage qui est commis depuis par l'armée israélienne. Près de 42 000 Palestiniens sont morts. Mostafa Barghouti, homme politique palestinien, condamne fermement la mort de toutes les victimes civiles. Mais pour lui, l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre.
Le 7 octobre n'est pas le point de départ. C'est le résultat de la brutalité israélienne en Cisjordanie, à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées. Avant le 7 octobre, on avait 70% des Palestiniens en exil forcé. 76 ans d'exil. Avant le 7 octobre, il y a 57 années d'occupation de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem. Avant le 7 octobre, il y a un blocus israélien imposé à Gaza durant 17 ans. Donc, faire croire que l'histoire a commencé le 7 octobre, c'est faux. Le 7 octobre, c'est le jour où 76 ans d'injustice ont fini par exploser. À Gaza, Israël ne mène pas une guerre, elle commet un génocide. 80 000 tonnes d'explosifs ont été larguées sur Gaza. C'est l'équivalent de 4 bombes nucléaires, comme celles qui ont été lâchées sur Hiroshima et Nagasaki.
Mostafa Barghouti, chef du parti politique de l'Initiative nationale palestinienne. Hier, Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur de l'arrêt des livraisons à Israël d'armes utilisées à Gaza. Le président français s'exprimait en marge du sommet de la francophonie qui s'est achevé hier à Paris. La France ne livre pas d'armes à Israël. Ces propos visaient donc les États-Unis qui appuient fortement l'État hébreu militairement. Ils ont déclenché l'IR en tout cas de Benjamin Netanyahou. Honte à vous, a réagi le Premier ministre israélien. En Australie, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé en solidarité avec les Palestiniens et les Libanais dans les grandes villes du pays aujourd'hui. La proximité de cet événement avec la date anniversaire du massacre du 7 octobre avait poussé la police à interdire cette manifestation, craignant un risque de débordement. Elle a finalement été autorisée. Reportage à Sydney de Grégory Pless.
Ils sont plus de 10 000 selon la police à scander leur soutien à la Palestine et au Liban. Pour Fatima, participer à cette manifestation relevait de l'évidence.
Je suis ici parce que tout être humain devrait être là, pour dire que le génocide est inacceptable et que ce qui se passe depuis un an est une tache sur notre humanité.
Ici, l'Australie peut paraître très éloignée du Moyen-Orient pour les manifestants. Il est clair que leur pays n'est pas neutre dans ce conflit. Ainsi, la position du gouvernement australien, très alignée sur celle de Washington depuis un an, a également déçu de nombreux électeurs du Parti travailliste au pouvoir, à l'image par exemple de Louise.
J'ai voté pour notre Premier ministre parce qu'il était l'un d'entre nous, il défendait une cause juste. Mais il a tourné le dos à ses électeurs. Mais nos voix comptent et à la prochaine élection, on va faire la révolution. Tous les dirigeants qui nous ont trahis, c'est pour ça qu'on est des milliers aujourd'hui. On en a le bol.
Une veillée funèbre pour la Palestine est également prévue demain à Sydney, le 7 octobre, un événement jugé inapproprié par l'ensemble de la classe politique australienne, qui n'est toutefois pas parvenue à interdire ce nouveau rassemblement. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Et ce dimanche, le pape François a de nouveau demandé un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient sur tous les fronts, y compris le front libanais. Le souverain pontife invite la communauté internationale à faire en sorte qu'il soit mis fin à la spirale de la vengeance. Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui aussi de nouveau appelé un cessez-le-feu pour, je cite, que la population civile de la bande de Gaza puisse être mieux protégée et mieux soignée, que les otages israéliens puissent enfin être libérés. Mais aujourd'hui, le ministre israélien de la Défense a menacé l'Iran de frappes similaires à celles menées à Gaza et au Liban. Au Brésil, le premier tour des élections municipales se déroule aujourd'hui. Un scrutin à valeur de test pour le président Lula. Il y a 4 ans, son parti avait perdu la moitié des mairies qu'il détenait. Un revers électoral que la gauche brésilienne tente de corriger en s'appuyant sur la notoriété de son président. Le Parti des Travailleurs doit tout de même faire face à une armée de candidats du Parti libéral de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Le Kazakhstan vote pour construire sa première centrale nucléaire aujourd'hui. Aujourd'hui, un vote en faveur du projet fait peu de doute dans la population. Les opposants qui craignent une catastrophe écologique ont du mal à se faire entendre. Des dizaines d'entre eux ont été arrêtés. Aux États-Unis, à peine une dizaine de jours après le passage dévastateur de l'ouragan Helene, la Floride est à nouveau menacée par les éléments. Le gouverneur républicain Ron DeSantis a déclaré l'état d'urgence dans 35 comtés de cet état du sud-est du pays pour se préparer à l'arrivée de la tempête tropicale Milton, Lucille Jambert.
La Floride est encore sous le choc et pourtant, il faut déjà s'organiser face à une nouvelle tempête tropicale. Le gouverneur Ron DeSantis a écrit sur les réseaux sociaux que l'État se prépare à des opérations de recherche et de sauvetage, au rétablissement de l'électricité et au dégagement de routes. D'après l'agence météo américaine, Milton progresse actuellement dans l'ouest du golfe du Mexique et devrait se transformer en ouragan majeur en milieu de semaine prochaine. Le Centre national des ouragans évoque des conséquences potentiellement mortelle. La température de la mer en surface, encore très élevée après le passage de l'ouragan Helene, est bien au-dessus de la normale, notamment en raison du changement climatique, va participer à cette intensification. Milton devrait d'abord atteindre certaines zones de la côte ouest de la Floride, la traverser puis rejoindre l'océan Atlantique. D'après la trajectoire anticipée par les scientifiques, l'intérieur des terres américaines devrait être épargné, et notamment les montagnes de Caroline du Nord, où l'ouragan Helene a causé de graves graves dégâts en déclenchant inondations et glissements de terrain.
Lucille Gimbert. Le journal des sports, bonjour Olivier Pron.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Du football au programme, on va faire le point sur les différents championnats européens et on commence avec la Ligue 1 en France.
Où Monaco est un nouveau leader et probant leader, au moins provisoirement, hein, après son succès 2-1 hier soir sur le terrain de Rennes, un club qui vous est cher. L'OM sombrant depuis deux matchs, le club de la Principauté montre qu'il est bien le principal concurrent du Paris Saint-Germain pour le titre cette saison, trois jours après le nul à Zagreb en Ligue des Champions. Cette victoire fait beaucoup de bien au groupe. Propos du défenseur ivoirien de l'ASM, Wilfried Tsingo.
Ça fait vraiment plaisir. On n'a pas eu beaucoup de temps de repos, mais avec l'état d'esprit et le travail que nous avons fait tout au long de cette semaine, ça c'est vraiment un bon point à prendre à l'extérieur. C'est un travail collectif. On était tous à fond. On était à cœur de gagner ces matchs. Ça s'est fait sentir sur le terrain et on va prendre du plaisir à continuer comme ça.
On va prendre du plaisir à continuer comme ça, nous dit Wilfried Tsingo. Monaco compte 3 points d'avance sur Paris et déjà 5 sur Marseille qui complète le podium. Lille, vainqueur de Toulouse sur le même score, 2-1 hier aussi, est juste derrière.
Et donc ce soir, le PSG va tenter de revenir à hauteur des monégasques.
À Nice, oui, Charlotte, en clôture de cette 7e journée, important de se remettre dans le sens de la marche. Pour les Parisiens, après la cinglante défaite 2-0 à Arsenal cette semaine en Ligue des Champions, match au cours duquel la prestation de Gianluigi Donnarumma a logiquement été pointée du doigt, le gardien italien, pas vraiment impérial, c'est le moins que l'on puisse dire sur les deux buts. Mais comme souvent avec Luis Enrique, bah c'est nous qui n'avons rien compris ou pas vu les mêmes images. L'entraîneur du PSG maintient toute sa confiance à Donnarumma.
Non, t'es un grand problème.
Je n'ai aucun problème avec lui. Je pense que Donnarumma n'est pas fautif sur les deux buts. La situation aurait dû être réglée avant mon arrivée ici. Ça n'a pas été le cas. Et derrière, notre gardien se fait critiquer. Après une défaite, c'est triste de taper sur un joueur, quel que soit son poste. Concernant Donnarumma, je suis habitué à le voir pointer du doigt. Mais peu importe, j'ai confiance en ce que je vois au match et aux entraînements. Tout le monde peut faire des erreurs. Ça peut aussi arriver aux joueurs parfois. Dans ce cas, s'il faut viser un fautif, visez l'entraîneur, mais laissez Donnarumma tranquille.
Et laissez Donnarumma tranquille, bien sûr, Luis Enrique, avant Nice PSG, 18h45, temps universel, auparavant, dans 45 minutes, Lyon-Nantes, un petit peu plus tard, Reims-Montpellier, et Strasbourg-Lens, notamment.
En Espagne, le FC Barcelone a l'opportunité, Olivier, de reprendre de l'avance en tête du classement.
Le Barça qui se déplace du côté d'Alavés, 11e, coup d'envoi 14h15 TU, alors qu'hier, le Real est revenu à hauteur, les Madrilènes vainqueurs de Villarreal 2-0, Kylian Mbappé, tiens, n'a pas marqué, mais il était titulaire, étonnant, non, de retour d'une blessure à la cuisse, le capitaine de l'équipe de France a pourtant déclaré forfait pour le rassemblement des Bleus qui débute demain lundi. C'est ballot quand on est capitaine de cette équipe de France. Mais enfin, un autre Madrilène est lui bien forfait pour la saison, sans doute. Dani Carvajal est touché gravement au genou et opéré dans les prochains jours.
En Angleterre, les trois équipes de tête ont gagné hier après-midi.
Liverpool est donc toujours leader, une longueur devant City et Arsenal. Plus loin, déplacement périlleux cet après-midi de Manchester United, 14e. Chez le 5e, Aston Villa, Erik ten Hag pourrait être limogé de son poste d'entraîneur des Red Devils en cas de défaite. En Italie, la Juve mène devant Cagliari 1-0 en ce moment et pourrait revenir à un point de Naples, le premier. Enfin, gros choc cet après-midi en Angleterre entre le Bayern Munich et son dauphin Francfort. Coup d'envoi 15h30, un tout dernier mot de tennis à Shanghai où le numéro 1 mondial Jannik Sinner s'est qualifié pour les 8e de finale comme le russe Medvedev, l'espagnol Alcaraz tente en ce moment de les imiter.
Olivier Pron, merci beaucoup. Emmanuel Macron plaide pour l'arrêt des livraisons d'armes utilisées à Gaza. Déclaration du président français hier en marge du sommet de la francophonie qui s'est achevé hier soir. De quoi susciter la colère du premier ministre israélien. On le rappelle, la France ne livre pas d'armes à Israël. Le message vise les États-Unis qui appuient militairement l'État hébreu. Michel Duclos, bonjour. Monsieur Duclos?
Oui, bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur et conseiller spécial géopolitique à l'Institut Montaigne. Vous avez récemment publié Diplomatie française aux éditions Alpha. Alors, cette déclaration du président français, est-ce que c'est un rééquilibrage dans la position française au Proche-Orient, alors que dans les pays arabes, certains observateurs critiquaient justement la position française, ne la trouvant pas assez ferme à l'égard d'Israël?
Non, je ne crois pas, parce que dès le mois d'octobre, le président français avait été le premier chef d'un État occidental à demander un cessez-le-feu. Et puis plus récemment, il y a quelques jours, le 25 à New York, il a signé avec le président Biden un appel aussi au cessez-le-feu au Liban. Donc il y a une certaine constance dans la position de la France telle qu'exprimée par M. Macron. Et cependant, les réactions que vous indiquez du côté arabe, mais on peut dire aussi la même chose du côté de M. Netanyahu, puisque comme vous l'avez indiqué, il a réagi très, très fermement, montrent que la France éprouve une certaine difficulté à adresser un message audible, et constant et cohérent au reste du monde sur ce terrible drame.
Oui, justement, la réaction israélienne, elle est très vive. Est-ce que ça peut impacter le rôle de la France en tant que médiateur au Proche-Orient ?
Si vous voulez, ce qui m'étonne un peu dans la déclaration du président, c'est pas tellement le contenu. D'une certaine façon, il a raison, bien sûr. C'est-à-dire que les Américains seraient bien avisés de d'utiliser leur aide à Israël pour en faire un levier. Mais de la part du président de la République, c'est que sa déclaration vient un peu en dehors de tout contexte. Et naturellement, l'Élysée était obligé de corriger un peu le tir le lendemain ou le surlendemain. Et donc, ce qui fait défaut au président et à la France, du même coup, c'est plutôt une stratégie vis-à-vis de ce dossier. Il donne l'impression d'aller au coup par coup.
La diplomatie française a perdu beaucoup d'influence au Proche-Orient. Pourtant, historiquement, la France a une voix forte, une position singulière. Est-ce qu'elle peut retrouver cette voix aujourd'hui ?
C'est une grave question qu'il faut peut-être commencer par relativiser. C'est-à-dire que c'est pas certain qu'on ait eu tant d'influence que cela, après tout, hein. Mais on avait une image, ça c'est vrai, et cette image s'est écornée au fil des années pour un certain nombre de raisons, y compris le fait que maintenant on est concurrencé par d'autres puissances. On n'est plus une des rares puissances existant sur les terrains. Puis il y a notre poids économique, il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont joué, y compris une certaine maladresse, je viens d'y faire allusion, au moins depuis le 7 octobre, dans les attitudes prises par Paris. Est-ce qu'on peut remonter la pente ? Je pense que ce sera long. Je crois que on avait bien commencé au Liban par cette initiative franco-américaine. Parce que là, on avait une attitude constructive qui pouvait être appréciée par tous les acteurs.
Initiative de proposition de trêve dans les combats
de 21 jours dans les combats au Liban. Et là, on est légitime parce que le Liban, c'est un terrain où la France joue traditionnellement un rôle. Et d'agir en conjonction avec les États-Unis, ça nous permettait d'être pertinents, de n'être pas simplement dans le déclaratoire. Et donc, c'est un peu ce type d'action qu'il faut que nous essayions de renouveler. Je pense personnellement à une initiative sur la Cisjordanie. Alors cette fois-ci, ce ne sera pas avec les États-Unis, ça peut être avec d'autres partenaires, y compris dans le sud global, parce que ce qui se passe en Cisjordanie est inacceptable et très dangereux pour la suite. Et donc, d'une manière générale, Netanyahou est allé de victoire en victoire, mais en même temps, il aggrave l'impasse dans laquelle se trouve Israël.
Un dernier mot, il nous reste 50 secondes. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, est en tournée au Moyen-Orient. Quels sont les enjeux de cette tournée ? Il sera en Israël demain.
Je crois que les enjeux, c'est justement que se mette petit à petit en place une coalition euro-arabe qui soit pas hostile à Israël, mais qui essaie de penser le jour d'après, et si possible même, d'infléchir sur les événements qui permettront d'en arriver à un jour d'après. Et là, c'est très important que bien comprendre que c'est pas la France seule, c'est pas les États-Unis seuls, et donc il faut qu'il y ait une coalition qui se mise en place, et j'espère que c'est un peu l'objectif du ministre.
Merci beaucoup Michel Duclos d'avoir été avec nous ce midi sur RFI. Ancien ambassadeur, vous êtes actuellement conseiller spécial géopolitique à l'Institut Montaigne. La route vers la Maison Blanche passe par Atlanta, la Géorgie, un état où chaque voix compte. La victoire à la présidentielle américaine risque de se jouer à seulement quelques milliers de voix dans cet état. Et c'est aussi l'état qui compte le plus d'électeurs afro-américains acquis à la cause démocrate. Mais encore faut-il qu'ils aillent voter. Alors de nombreuses associations incitent les électeurs noirs à se déplacer le 5 novembre. Reportage à Atlanta de David Thompson.
C'est une opération de porte-à-porte dans un quartier plutôt qu'au sud de la classe moyenne afro-américaine d'Atlanta. Les pelouses sont parfaitement tondues, les maisons toutes alignées à l'identique façon Desperate Housewives. Avec son t-shirt orange de l'organisation We Vote, We Win, sur lequel s'inscrit en majuscule le mot « voter », Caleb, étudiant afro-américain, sonne d'abord à la porte de Mel René qui, une comptable de 67 ans, bien décidée à aller voter le 5 novembre pour Kamala Harris, afin, dit-elle, de restaurer le droit à l'avortement quasiment interdit en Géorgie.
Seule une femme peut comprendre ce qu'il se passe dans le corps d'une femme. Il y a très longtemps, j'ai fait une fausse couche. J'étais à la maison et une hémorragie a commencé. Avec les lois d'aujourd'hui, ils ne m'auraient pas soignée. Je serais sans doute morte. Je ne serais plus là aujourd'hui.
Deux femmes sont mortes en Géorgie, faute de soins après des avortements clandestins. Kamala Harris martèle leur nom à chaque meeting. Ces drames, c'est aussi ce qui motive Emma Royston Cole à voter contre Trump. Mais cette avocate afro-américaine retraitée s'inquiète des dizaines de lois votées par les républicains pour dissuader les Noirs d'aller voter. Sa fille vient justement d'en faire l'expérience.
Ma fille vient juste de recevoir une lettre disant que son bureau de vote avait changé. Or, on vote tous dans cette maison et personne d'autre n'a reçu ça. Voilà ce qu'ils font pour que les gens se trompent de bureau de vote, pour qu'ils arrivent trop tard. Autant de petites choses qui visent à nous empêcher de voter.
Mais pour gagner en Géorgie, les démocrates doivent surtout lutter contre l'abstention des hommes noirs. 30% des Afro-Américains n'ont pas voté en 2020. C'est ce que les commentateurs politiques américains appellent le « gender gap ». Exemple avec Tyler Wallace, à 21 ans, cet agent immobilier est en âge de voter pour la première fois cette année, mais il n'est pas sûr de se mobiliser.
Je ne sais pas, je ne m'intéresse pas trop à la politique. J'ai tellement de choses à gérer en ce moment, la vie, la carrière, tout ça.
Il faut dire que Tyler est encore réticent à l'idée même de voter pour une femme.
J'y réfléchirai à deux fois avant de voter pour une femme. Je pourrais le faire, mais il faudrait que je sois sûr qu'elle ne prend pas ses décisions pour changer le pays sur le coup de ses émotions.
Et dans cette présidentielle, chaque voix va compter pour gagner la Géorgie. En 2020, il avait fallu attendre plus d'un mois et trois recomptages pour obtenir les résultats définitifs. Une victoire de Joe Biden sur le fil avec moins de 12 000 voix d'avance que Donald Trump n'a jamais reconnu. David Thompson, Atlanta RFI.
Ligne de défense à présent, la chronique de Franck Alexandre. Il y a 60 ans, le 8 octobre 1964, la France mettait pour la première fois en œuvre la dissuasion aéroportée avec le couple Mirage 4 et la bombe nucléaire à gravitation. Depuis, les moyens ont été adaptés à l'évolution technologique, géopolitique et opérationnelle. Les Rafale B emportent désormais des missiles nucléaires et constituent la partie visible de la dissuasion française, Franck Alexandre.
Depuis la première prise d'alerte sur la base de Mont-de-Marsan, le 8 octobre 1964, les forces aériennes stratégiques sont l'une des clés de voûte de la dissuasion française. Le rôle de l'armée de l'air est certes indissociable et complémentaire de la composante océanique, les sous-marins lanceurs d'engins balistiques, mais aux yeux du général Jean-Patrice Le Saint, qui cet été a quitté ses fonctions de chef d'état-major des forces aériennes stratégiques, la dissuasion aéroportée a des atouts bien spécifiques.
Le premier atout, c'est l'arme. Et l'arme, aujourd'hui, c'est un missile de croisière extrêmement précis. Le deuxième atout de la composante aéroportée, c'est qu'elle est mise en œuvre à partir de bases aériennes, qui sont des infrastructures visibles. Ce qui permet, dans le cadre de la dialectique nucléaire qu'engagerait le président de la République, de bien matérialiser son attention.
Depuis les bases d'Istres, Avord et Saint-Dizier, plus de 2000 aviateurs sont chargés de la mise en œuvre de la dissuasion par les airs, la composante nucléaire qui se voit, selon la formule du président Hollande, car s'il est impossible de rappeler un missile balistique, la réversibilité d'un raid aérien est toujours une option, jusqu'à un certain point, général Le Saint.
À partir du moment où le raid est engagé, les équipages poursuivront la mission jusqu'au bout, mais jusqu'à ce point de l'engagement, il est possible de rappeler le raid. Et donc, il est possible de lui faire parcourir plusieurs milliers de kilomètres avant de l'engager. Et le fait qu'il y ait le raid qui transite, c'est quand même un signal assez fort qui incite à réfléchir.
Un signal fort qui repose sur la crédibilité, c'est le cœur même du concept de dissuasion, insiste Jean-Patrice Le Saint.
Cette crédibilité, elle a trois dimensions. Une première dimension politique qui est incarnée par le président de la République, le détenteur du feu nucléaire. Le deuxième volet, c'est la crédibilité technologique. C'est ce qui permet en fait de garantir que nous sommes en mesure de concevoir des armes, que nous savons leur faire traverser les défenses adverses pour atteindre leur point d'explosion. Le troisième volet, c'est celui de la crédibilité opérationnelle. Et là, il y a un point qui est important, c'est que la crédibilité ne se décrète pas. En revanche, il y a certains paramètres qui permettent d'objectiver la crédibilité. Nous sommes crédibles parce que les équipages des forces aériennes stratégiques conduisent, et souvent de manière ostensible, des manœuvres, les opérations poker, qui, quatre fois par an, engagent dans un scénario extrêmement réaliste, une cinquantaine d'avions dans la simulation d'un raid nucléaire.
D'ailleurs, à chaque exercice poker, les satellites espions des grandes puissances braquent leurs antennes vers la France pour observer la manœuvre et mesurer justement la crédibilité de la dissuasion française.
Ligne de défense, une chronique signée Franck Alexandre, à retrouver sur RFI.fr. Pour donner une nouvelle vie à ses collections permanentes, le musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris vient de créer sa propre bande-son. Des haut-parleurs diffusent des musiques, des poèmes, des chants, des prières, des bruits et des ambiances naturelles. Quelques 150 éléments sonores rythment désormais le parcours du musée à travers les arts et les civilisations d'Afrique, d'Océanie, d'Asie et des Amériques. Et ils transforment totalement la visite du musée. Reportage de Carmen Lunsman.
Entendre le vent glacial souffler au Grand Nord, suivre une cérémonie religieuse en Éthiopie, ou écouter le chant mystique d'un vase siffleur et d'autres flûtes préhispaniques, au Quai Branly, les espaces et les objets des collections permanentes reprennent vie à travers une dimension sonore inédite. Éric Duvichère, commissaire de ce nouveau parcours sonore du musée.
Bien sûr, il y a déjà eu du son dans des expositions et dans certains musées, mais jamais à ce niveau-là, c'est-à-dire créer non seulement des choses très localisées, très liées à certains objets, faire entendre un instrument de musique par exemple, mais aussi des ambiances, des contextualisations. Par exemple, un ensemble d'objets liés à la pêche avec une très belle pirogue des îles Salomon. Nous avons enrichi cette présentation non seulement de sons environnementaux, des sons d'eau, etc., mais aussi des chants de pagayeurs. Donc il y a un pouvoir évocateur du son qui est très fort. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi montrer une vidéo, et ça on les a déjà vus des centaines de fois, mais le faire par le son, ça ouvre aussi un espace imaginaire qui est assez intéressant à explorer.
La palette est large et part d'enregistrements de terrain pris lors de missions ethnologiques des années 1960 jusqu'aux sons contemporains enregistrés ou même composés en 2024. Pour créer ce voyage onirique en mille et un sons à travers les continents, il a fallu 4 ans de travail, 3 designers de sons, des ingénieurs, compositeurs et collecteurs de sons.
Il y a des sons que nous avons nous-mêmes découverts dans nos recherches. Par exemple, ce chant des dunes, issu du désert saharien, qui est en fait un phénomène physique de frottement des grains de sable. Lorsqu'il y a certains glissements de terrain, ça peut être provoqué par le vent ou par des pas. Et ça produit une sorte de vrombissement tout à fait étonnant.
Afin de faire chanter et résonner tous ces phénomènes sonores et ne pas noyer le public dans un brouhaha monstrueux, Éric Duvichère et son équipe se servent de plusieurs stratagèmes. Ils installent des déclencheurs, jouent sur les niveaux sonores, font passer des séquences dans un ordre aléatoire, laissent même place au silence et disposent des haut-parleurs à hauteur d'oreille ou même à l'intérieur d'une banquette où l'on peut vibrer au son d'un didgeridoo face aux œuvres murales d'Australie. Tout est fait pour créer des liens sensoriel sans avoir recours au casque ou audiophone. L'idée est tout simplement de créer une expérience collective et de prendre le temps d'écouter pour mieux voir et comprendre.
«
Reportage signé Carmen Lunzmann. Merci à Diego qui m'a accompagné ce midi à la réalisation. Restez avec nous dans quelques secondes, cet Afrique Midi sur RFI.